hasard et la chance voulurent qu'Esteban prenne place sur le même banc que moi. D'évidence, nous y formions un étrange attelage, le docile percheron et le poney sauvage galicien, le petit gros placide et le grand flutio efflanqué. Nous nous sommes dévisagés un court instant, et par le grand mystère d'une instinctive sympathie, tout fut dit. Le seigneur de Montaigne, que je ne connaissais pas encore, n'eut pas manqué de clamer. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Nous n'avons jamais, depuis, cessé d'être côte à côte, même séparés par d'insondables océans ou la démesure des continents. Sorte d'échalas trop vite montés en graines, une tignasse de corbeaux hirsutes, des yeux démesurés d'un noir profond roulant vivement en tous sens, Esteban dégageait une folle énergie qui avait la singularité de s'évaporer pendant les cours. Très vite, il fut catalogué comme « paresseux de première classe » par le père Legras et eut droit à une double ration quotidienne de coups de règle et d'insultes percutantes, ce qui ne le changeait guère de son ordinaire domestique. Dès la première récréation, mon nouveau voisin me confia dans un français impeccable que son père Pablo était un militant communiste, pur et dur, héros de la résistance antifranquiste, kidnappé, sans doute torturé et peut-être liquidé par le caudillo, ce juste et pieux général complaisamment décrit par Bobos. Malgré cette probabilité, contre vents et marées, Esteban conservait l'espoir que son valeureux père aurait joué un sacré tour à ses tortionnaires en creusant un tunnel sous les barbelés de son camp de concentration. Si tel n'était pas le cas, il projetait d'aller le délivrer un jour, les armes à la main. « Je pourrais même l'accompagner, m'assura-t-il, si je m'en sentais le courage. » Après l'arrestation de son héros de mari, Dolores, la mère d'Esteban, redoutant des persécutions pour elle et son gamin, se résolut à prendre la fuite et à s'expatrier de l'autre côté des Pyrénées, pensant trouver en France, patrie des droits de l'homme, protection et compassion. Je fis le serment, juré craché, de ne rien dévoiler de ses confidences, mon compagnon craignant que si la direction du collège apprenait la vérité sur son père, c'était le renvoi immédiat, voire le retour à la casse Franco. « Franco de port !» ricana Esteban, dont l'habileté à jouer avec les mots n'avait pas fini de me surprendre. Comme je m'étonnais de la même aisance qu'il avait à parler la langue de Molière que celle de Cervantes, il extirpa de sa poche un livre dont la couverture partait en lambeaux. « Candide de Voltaire », me dit-il, en agitant l'ouvrage écorné devant mes yeux. « Tout est dans les livres », ajouta-t-il en précisant que son père, libraire madrilène francophile et fin lettré, l'avait très tôt gavé des chefs-d'œuvre de notre littérature. Chez les Lorca, on parlait un français pur comme de l'eau de roche, et on était incollable sur les grands auteurs du XIXe siècle, avec une prédilection pour Hugo, Zola et Maupassant. J'en éprouvais quelques gênes, en étant encore au journal du Mickey, à Bibi Fricotin et aux pieds nickelés. Le petit Esteban était donc parfaitement bilingue, voire trilingue, comme je n'allais pas tarder à le découvrir, et d'une stupéfiante maturité d'esprit et de cœur. « Quand je dis que mon père était francophile, précisa-t-il, cela veut dire qu'il aimait la France, pas Franco. La France de la Révolution, des droits de l'homme et de la liberté guidant le peuple. » Soudain, exalté, il leva un poing rageur et rugit. « Répète après moi, hasta siempre, que viva la révolution !» galvanisé, mais sans comprendre autre chose que le mot « révolution », après un prudent regard alentour, je brandis le poing à mon tour et lançai le premier cri de révolte de ma jeune vie. Le jour dit, mon ami sonna à notre porte au moment précis où le clocher voisin sonnaillait 2 heures de l'après-midi. Je craignais la réaction de mes parents quand ils découvriraient cet échalas maigrichon, vêtu à la diable et les cheveux en pétard. Mais Esteban avait fait l'effort louable de casser quelques dents d'un peigne dans son piège capillaire et de ne pas venir les mains vides. Il se tenait campé sur le paillasson, le visage à demi masqué par un énorme bouquet de fleurs, sans doute prélevé dans le square municipal voisin. Ma mère l'accueillit avec le sourire de Joconde que je lui connaissais bien et qui lui permettait, mine de rien, de masquer sa circonspection. De toute évidence, Marie-Angèle jaugeait mon camarade en plantant ses yeux dans les siens, décelant sans doute en lui des signes intéressants à déchiffrer. Soudain, tout en tendant la main pour saisir le bouquet de contrebande que lui tendait Esteban, elle émit un « Oh !» de surprise, fut saisie de frissons et relâcha les fleurs qui s'éparpillèrent au sol, cul de jonquille par-dessus tête de marguerite. Mon père était accouru, en entendant le cri de surprise ou d'effroi, on ne savait trop, poussé par son épouse. « Ce n'est rien, » murmura-t-il, en s'arc-boutant pour étayer la médium qui vacillait. « Encore une de ces satanées prémonitions !» Croulant sous le poids, Georges la soutint vaillamment jusqu'au fauteuil le plus proche, où elle se laissa sombrer, toujours flageolante de tous ses membres. Habituée de longue date à ces séquences grand-guignolesques, je regardais d'un œil amusé mais compatissant le malheureux Esteban, dont la belle crânerie fondait comme un esquimau glacé au soleil de midi. Je lui tapotais l'épaule et tentais un sourire auquel il ne répondit pas, l'air abasourdi. Longtemps après, il m'avoua avoir éprouvé, au tréfonds de sa chair, comme un trifouillement prodigieux de ses chakras qu'il attribua au seul regard rivé dans le sien de Madame Angèle. Pour l'heure, il bafouilla qu'il allait se retirer, mais du fond du fauteuil où se remettait ma mère, une voix d'outre-tombe articula que le malaise était passé. Avec l'aide de mon père, elle parvint à se relever, prit quelques profondes inspirations et revint vers nous. Tandis que je ramassais les fleurs éparpillées, elle se planta face à Esteban, posa ses 2 mains sur sa tête, ferma les yeux et articula d'un ton doux et solennel à la fois. « Tu auras un destin exceptionnel. Ta vie sera un enchevêtrement de grandes joies et d'insondables douleurs. Tu connaîtras la gloire. On chantera tes louanges, puis on te haïra. Je vois des bûchers, je vois des exils, mais surtout, réduisant tout le reste à peu de choses, je vois que tu vivras un très grand amour. »